un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrice, auditeur, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 26 août 2024. Jean-Louis, bien sûr, au micro de Radio Libre en Périgord, pour cette chronique dans laquelle nous allons parler de la Palestine, de ce que se passe également dans les territoires occupés. Mais je voudrais commencer par cette déclaration. Tout d'abord, un petit commentaire personnel, c'est bien évidemment au sujet de l'attaque de la synagogue de la Grand-Motte. Toute agression à caractère raciste, xénophobe, doit être condamné de la manière la plus ferme, sans la moindre distinction liée aux convictions, croyances, des agressés comme des agresseurs. Rien ne justifie les agressions contre les uns, rien ne justifie les mesures prises par les agresseurs sur ce terrain du racisme. Il n'y a aucune excuse. Il n'y a pas de peuple élu, il n'y a pas de peuple maudit. Cela signifie que toute atténuation ne peut relever que de la discrimination. Je l'ai répété N fois à ce micro, et je continuerai. La paix ne peut se construire que sur le respect absolu du principe d'égalité des droits pour tous et la mise en œuvre des dispositions en garantissant l'application effective. Et cela, ce n'est rien d'autre que la liberté absolue de conscience, que la réalité de la liberté absolue de conscience. Ce week-end, vous le savez, vous avez entendu les informations, a été marqué par l'attaque de la synagogue de la Grand-Motte. Et je pense que la déclaration faite par nos camarades de l'Hérault vaut à elle seule tout autre commentaire. Position est mise en garde après les réactions suite à l'attaque de la synagogue de la Grand-Motte. La libre pensée condamne fermement l'attaque contre la synagogue de la Grand-Motte. Je répète. La libre pensée condamne fermement l'attaque contre la synagogue de la Grand-Motte. Selon les dernières informations, le suspect aurait été arrêté et l'image qui circule montre un homme arborant un drapeau palestinien et vêtu d'un keffieh au moment des faits. Ceci doit nous interpeller au plus haut point. Nous ne serons pas de ceux qui expliquent que les faits sont trop « beaux » pour être vrais, entre guillemets. Si en effet il est étrange de vouloir être accoutré de cette manière pour commettre une attaque, et même si nous savons que les coups tordus existent et ont toujours existé, et que certains connaissent bien leur métier, et même si ces faits sont une occasion en or pour ceux qui n'attendent que cela pour dire « voilà », nous ne sommes pas férus d'une vision policière de l'histoire. En effet, pendant des mois, nous avons mis en garde, comme libre-pensée, contre l'instrumentalisation des religions contre la substitution des problèmes politiques en problèmes de type religieux ou supposément ethnique. Aussi, nous avons pu constater un cocktail assez explosif de la part du traitement médiatique du génocide en cours, ainsi que d'une partie de la classe politique. Nous posons la question suivante. En passant totalement sous silence l'atrocité du génocide palestinien, en laissant se diffuser sans la moindre réaction des images insoutenables, en évoquant la question quasi uniquement sous l'angle de la libération des otages du Hamas, sans rien dire sur le massacre en cours, en ne cherchant à aucun moment à condamner les franco-palestiniens combattant sous l'uniforme de Tsahal et commettant des crimes de guerre, en prétendant que tous ceux qui soutiennent le cessez-le-feu sont donc contre les juifs, donc antisémites, car il ne peut y avoir que deux camps délimités par leur religion, en prétendant que la critique d'Israël, c'est la critique de tous les citoyens de confession juive, en expliquant en plein massacre de Palestiniens que la seule chose qui importe était que personne ne puisse remettre en cause l'existence d'Israël, en affirmant qu'un État laïque et démocratique sur tout le territoire de la Palestine, traitant à égalité les citoyens indépendamment de la religion, signifiant donc la disparition du sionisme, était également de l'antisémitisme, comme si un État pouvait vivre durablement par exclusion de la composante palestinienne historique, en prétendant que certains, en fonction de leur religion, ont des places différentes dans la République, comme par exemple Manuel Valls l'a fait quand il a polémiqué contre le voile porté par des femmes musulmanes, mais dans le même temps expliquait, citation, « Les Juifs de France peuvent porter avec fierté la kippa ». En surréagissant au moindre incident concernant l'antisémitisme, mais en se gardant bien de le faire pour d'autres, pour bien montrer que tout ne se vaut pas dans la République. En organisant et en approuvant depuis des mois les interdictions des manifestations des organisations démocratiques, condamnant le génocide, suggérant qu'il puisse y avoir un lien entre l'arrêt d'un massacre et l'antisémitisme. Ceux qui ont organisé tout cela, que croient-ils que cela puisse provoquer ? En disant tous les jours « Les Juifs dans leur ensemble sont la représentation de l'État d'Israël, critiquer l'un c'est critiquer l'autre, en plein génocide », que croit-on qu'il puisse arriver ? Nous osons le dire. Ceux qui jouent ce petit jeu d'apprenti sorcier, qui est certes dans l'air du temps, vont fabriquer en série une forme de rage sur le terrain, préparée depuis des années, l'affrontement entre communautés. Les Valls, Darmanin, Moutoun, Delga et autres qui ont joué cette partition dangereuse de manière volontaire, en toute connaissance de cause, portent une responsabilité. Ils ont accroché une cible dans le dos à certains en les désignant comme étant la représentation de l'État d'Israël en France. Oui, il peut y avoir une résurgence d'une certaine forme d'antisémitisme. Certes pas un antisémitisme diffusé par l'État et les médias comme dans les années 30. Celui-ci a été substitué par la haine des musulmans. Même si c'est la même logique, les cibles ont changé et les néo-convertis s'en donnent à cœur joie. L'URN, évidemment, mais pas uniquement. Les anciens antisémites d'hier se sont mués en anti-musulmans. Il faut bien vivre avec son temps. Aujourd'hui, les Juifs servent de bouclier dans la stratégie des USA au Moyen-Orient, car l'État d'Israël est avant tout l'affaire des USA, plus que d'autres choses. L'État d'Israël n'est pas là pour défendre les Juifs, mais pour s'en servir. La seule chose au final qui est défendue en Israël, ce sont d'une part les USA, c'est la raison pour laquelle ils soutiennent autant cette création, et une partie des colons, promoteurs et hommes d'affaires qui y trouvent leur compte pour le moment. Analyser de manière réaliste, réelle, librement, la situation aide à voir clair, aide à avancer. La lutte contre l'antisémitisme ne pourra pas être le fait de ceux qui le nourrissent en instrumentalisant les religions, en organisant le traitement différencié en fonction de l'appartenance à une ethnie, réelle ou supposée, ou une croyance. On le sait maintenant. Le fait d'avoir soutenu en sous-main des mouvements religieux au Moyen-Orient permettant de canaliser les masses vers des organisations communautaires plutôt que vers des organisations qui se réclamaient du marxisme, a pu servir des buts de guerre en Afghanistan, en Irak ou en Syrie, par exemple. Aussi, ceux qui ont organisé cela portent la responsabilité de cette stratégie du choc des civilisations. Nous ne pourrons trouver le moindre chemin de paix et de défense de l'humanité avec ceux qui se vautrent là-dedans pour être sûr de conserver leur place à la table des grands de ce monde et d'en avoir au moins quelques miettes. Cependant, la libre pensée s'adresse aux militants, aux démocrates, aux syndicalistes et à la jeunesse. Plus que jamais, la libre pensée, la science, la laïcité, la raison, les lumières, l'analyse lucide et rationnelle doivent être notre boussole plutôt que les poncifs médiatiques, les lieux communs et les phrases toutes faites qui sonnent fort, mais creux et sont dangereux. Voilà, c'était donc la déclaration de la Fédération unie de l'Hérault de la libre pensée que je partage totalement et qui correspond bien évidemment aux quelques lignes que j'ai lues en introduction à cette chronique. Alors, je voudrais maintenant en venir à un certain nombre d'éléments sur ce qui se passe effectivement de manière tragique sur le terrain en Palestine à travers différents documents que je vous propose. Alors, un premier document qui a été diffusé dans une infolettre aux citoyens en Dordogne, ne parlait pas de trêve à Israël. Retour de la polio pour les enfants de Gaza. Un premier cas de poliomyélite a été détecté sur un enfant dans la bande de Gaza. La maladie avait disparu depuis 25 ans. dans les territoires palestiniens. Et plus globalement, ce virus a été quasiment éradiqué de la planète par des campagnes de vaccination depuis les années 1980. Il ne subsiste que dans quelques zones d'extrême pauvreté et de guerre. La polio est une infection qui peut déformer et paralyser les membres inférieurs, rendant l'enfant contaminé et handicapé à vie, voire entraîner une paralysie de l'appareil respiratoire allant jusqu'à la mort. En France, cette terrible maladie frappait au début du siècle dernier. Le retour de ce virus au sein de la population de Gaza inquiète l'ONU, qui réitère son appel au cessez-le-feu immédiat afin de lancer un grand plan de vaccination. Environ 640 000 Gazaouis entre 10 mois et 10 ans doivent être vaccinés en urgence pour l'ONG Médecins du Monde. La polio aujourd'hui, elle est liée à la destruction du système de santé, elle est liée à un blocus intentionnel qui limite la capacité à faire entrer de l'eau, de la nourriture, des médicaments et des vaccins en quantité suffisante. Le siège israélien affame et tue de façon indirecte. Un village chrétien colonisé par les suprémacistes sionistes. Bethléem, ce nom fait écho au livre saint des chrétiens. Selon la Bible, c'est la ville de la naissance de Jésus. Depuis le mois de juillet, les autorités israéliennes ont officiellement annoncé leur volonté d'implanter une nouvelle colonie illégale dans la commune de Beit Jala, à côté de Bethléem. Depuis 2000 ans, il existe des chrétiens palestiniens, population souvent oubliée, alors que l'Occident fantasme un choc des civilisations qui opposerait un bloc judéo-chrétien au monde musulman. Ces chrétiens de Palestine sont aussi victimes de la violence coloniale. L'une des plus vieilles églises de Gaza avait d'ailleurs été bombardée dès le mois d'octobre dernier et ses occupants tués. Revenons à la colonisation de Bethléem. L'historien britannique William Dalrymple, spécialiste du monde musulman et des chrétiens d'Orient, estime que, citation, « les Israéliens sont en train d'éliminer l'un des derniers bastions chrétiens palestiniens en Cisjordanie. C'est l'endroit où j'ai choisi de rester lorsque je faisais des recherches sur les chrétiens palestiniens. C'est un endroit avec une histoire incroyablement ancienne, berceau du christianisme. » Fin de citation. Il souligne aussi que la généalogie de ses habitants remonte aux premiers chrétiens de l'époque du Christ. Les colons et l'armée ont commencé à expulser les citoyens et à la déclarer zone militaire fermée. Des habitants ont organisé un sit-in sous une tente et refusent de partir. Cette offensive fait partie des nombreuses offensives illégales des colons en Cisjordanie depuis le 7 octobre qui ont causé la mort de plus de 600 Palestiniens et le vol de milliers d'hectares de terre. Boucliers humains. Ils sont surnommés les Stawashim, c'est-à-dire les sergents. L'armée israélienne capture des civils non suspects de terrorisme dans la bande de Gaza et les utilise comme boucliers humains lors d'opérations de fouilles israéliennes dans les tunnels et les immeubles abandonnés avant l'entrée des soldats de Tsahal, et ce, au vu et au su de leurs officiers supérieurs. C'est ce que révèle le journal israélien Haaretz. Le but est de protéger les militaires en envoyant des civils comme chair à canon sous les tirs et dans les bâtiments minés. L'armée israélienne pousse le vice jusqu'à forcer ses boucliers humains à porter des uniformes israéliens et des gilets pare-balles et à crier en hébreu pour qu'ils se fassent tirer dessus par les combattants palestiniens, ce qui permet de les repérer, de repérer ces derniers. Nos supérieurs nous rappellent toujours que nos vies valent plus que celles des Palestiniens. Rappel de ce que je disais en tout début, il n'y a pas de peuple élu, il n'y a pas de peuple maudit. C'est exactement l'inverse. Ce qu'il se passe à Gaza. Explique un soldat à Haaretz. Un officier nous a carrément affirmé que, grâce au Sawishim, on pouvait épargner la vie des chiens renifleurs de l'unité canine Oketz. Cette pratique est confirmée par des images diffusées en juin 2024 qui montraient l'incursion de l'armée israélienne à Jenin. Les soldats de Tsahal avaient blessé un jeune Palestinien. Il l'avait attaché sur le capot de la jeep pour se protéger de tirs ou de jets de projectiles. Pendant l'offensive israélienne, plomb durci, menée à Gaza en janvier 2009, des soldats avaient utilisé un enfant de 9 ans, Majera, pour vérifier la présence d'explosifs dans des sacs sous la menace d'une arme. Ce sont des crimes de guerre. École bombardée. En pleine négociation, une autre école des Nations Unies vient d'être bombardée à Gaza, tuant 3 personnes et blessant une dizaine d'enfants. Une frappe de précision, entre guillemets, revendiquée par l'armée israélienne où l'armée est la plus morale du monde, entre guillemets. Des images atroces d'un enfant au crâne explosé et vidé de son cerveau ont été diffusées après ce tir. Depuis le 4 juillet, au moins 23 écoles ont été ciblées, soit une tous les deux jours en moyenne, selon les rapports de l'ONU. La stratégie est simple, détruire systématiquement les infrastructures essentielles pour rendre la vie insoutenable à Gaza, forçant ainsi les Palestiniens à quitter définitivement leurs terres. Mais les chiffres humains sont bien plus graves que les pertes matérielles. Selon le chef de l'UNRWA, 10 enfants perdent une ou deux jambes en moyenne chaque jour. 17 000 enfants ont été tués depuis le 7 octobre, dont plus de 2100 ayant moins de 2 ans. Otages tués par Israël. Mardi 20 août, ce sont les corps de 6 otages israéliens qui ont été retrouvés. Ces otages seraient morts à cause des bombardements de Tsahal, provoquant une inondation de CO2 dans les tunnels, asphyxiant ses occupants, selon le journal israélien Haaretz. Netanyahou préfère voir les corps de ses compatriotes revenir dans les bâches blanches plutôt que de risquer sa carrière politique, accuse le journal israélien. Il ne fera plus marche arrière. En décembre, des soldats de Tsahal avaient même exécuté 3 otages israéliens à Gaza. Ils avaient réussi à s'échapper, mais étaient torse nus et brandissaient des drapeaux blancs. Mais les soldats, habitués à tuer sur toute âme qui vive, avaient fait feu. Frappe au Liban. La situation est toujours aussi tendue au sud du Liban, où une frappe israélienne près du site archéologique de Baalbek a causé la mort de 6 personnes. Parmi les victimes, un chef militaire du Fatah, amenuisant, s'il le fallait encore, les espoirs d'une trêve. De son côté, le député de Hezbollah, Hassan Ezzedine, confirme qu'une réponse aux crimes commis par Israël dans la banlieue sud de Beyrouth en janvier dernier est inévitable. Israël, de son côté, se dit prêt à faire face à n'importe quel scénario, offensif ou défensif. Pendant ce temps, l'armée israélienne intensifie la pression sur le Liban en menant des opérations de guerre psychologique. Les avions de chasse israéliens franchissent plusieurs fois par jour le mur du son au-dessus de Beyrouth, la capitale libanaise, provoquant des déflagrations assourdissantes qui terrorisent ses habitants. Ces survols à basse altitude sont conçus pour user les nerfs de la population, ajoutant un stress supplémentaire à une situation déjà précaire. Le risque d'un embrasement généralisé de la région devient de plus en plus palpable à mesure que les espoirs d'une trêve s'estompent. Chaque jour qui passe sans cesser le feu rapproche le Moyen-Orient d'un point de non-retour. Cette escalade continue menace non seulement la stabilité régionale, mais aussi la paix mondiale, alors que les tensions s'accumulent et que les interventions extérieures deviennent de plus en plus probables. Voilà, donc c'est la fin de cet article. Et puis je voudrais également citer un article qui a été publié sur Safir News qui montre que Netanyahou est de plus en plus isolé et que sa politique est de plus en plus critiquée. Par exemple, sur l'esplanade des mosquées, donc à Jérusalem, un ministre israélien est venu prier et suscite la colère des rabbins. Une prière qui ne passe pas. Ce sont cette fois 5 éminents représentants du rabbinat israélien qui ont condamné. Jeudi 15 août, le rassemblement religieux organisé la veille sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est et au cours duquel quelques 3000 juifs, dont le ministre israélien d'extrême droite Itamar Ben-Gvir, ont prié pour commémorer la destruction des 2 temples. En vertu d'un statu quo, les non-musulmans peuvent se rendre sur cette esplanade abritant la mosquée Al-Aqsa à des heures précises, sans y prier. Les juifs ont, quant à eux, l'interdiction de se rendre sur ce lieu saint disputé selon une règle du rabbinat, mais celle-ci est remise en question par des rabbins du mouvement sioniste religieux dont est issu le ministre d'extrême droite. J'appelle les nations du monde à ne pas considérer ces ministres du gouvernement comme des représentants du peuple juif, a affirmé Itzhak Yosef, l'ex-grand rabbin d'Israël, dans une vidéo dans laquelle apparaissent 4 autres rabbins orthodoxes. Leurs voix se joignent à la vague de critiques internationales suscitées par le rassemblement dont s'est vanté de participer le ministre de la Sécurité nationale. L'ONU, l'Union européenne, les États-Unis et de nombreux pays musulmans ont dénoncé l'attitude d'Itamar Ben-Gvir, y voyant une provocation inacceptable pour les uns, inutile pour d'autres. Une habitude pour le chef de force juive. Il a été inculpé plus de 50 fois dans sa jeunesse pour incitation à la violence ou pour des discours de haine, et il a été condamné en 2007 pour soutien à un groupe terroriste et incitation au racisme, sans que cela ne freine son ascension politique. Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou, a estimé qu'il s'agissait d'un événement constituant une exception au statu quo. Voilà, ça continue et on laisse toute la place politique à ces ministres d'extrême droite. Alors, maintenant, je voudrais en venir à une information concernant la disparition de Georges Cormes. Des amitiés reliaient la libre pensée de Georges Cormes, intellectuel libanais disparu le 14 août dernier. Ses livres et ses analyses restent l'expression d'une pensée indépendante extrêmement précieuse. Georges Cormes était né en 1940 à Alexandrie d'une famille libanaise, palestinienne et syrienne. Il expliquait « J'avais 8 ans lorsqu'est survenue la catastrophe palestinienne de 1948. Cela m'a frappé. Et 16 ans lors de l'expédition de Suez alors que ma famille habitait l'Égypte. À l'époque, j'étais au Caire. Je me souviens avoir vécu ces événements avec une intensité très forte. Je me souvenais des pères jésuites qui nous faisaient aimer la grande littérature française et les philosophes des Lumières. Soudain, je vois surgir les avions français qui se mettent à bombarder un des peuples les plus pacifiques de la Terre qui n'avait commis aucune agression militaire. Depuis cette date, soit 1956, la vie que j'ai menée, comme celle de plusieurs dizaines de millions de concitoyens de différents pays arabes, n'a été qu'un enfer, fait de guerres à répétition et d'exil, dont l'énumération serait trop longue, en particulier à partir de 1990. Nous vivons en enfer, le comprenez-vous ? Dans une autre interview un peu plus récente à la revue Orient 21, il répond au journaliste Sylvain Mercadier. Les dernières années de la guerre froide durant la décennie des années 80 vont alors être caractérisées par la mobilisation occidentale des trois religions monothéistes contre la pensée marxiste et le neutralisme positif du mouvement des pays non alignés qui s'était constitué à Bandung, en Indonésie, en 1955, sous l'impulsion du Yougoslave Josip Broz Tito, de l'Égyptien Nasser et de l'Indonésien Ahmed Soekarno. Dans le monde arabe et musulman, le Royaume-Uni puis les États-Unis vont faire du wahhabisme saoudien et de son extrémisme religieux « la norme », entre guillemets, en islam, alors que cette doctrine virulente et délirante avait été considérée dans tout le monde musulman dès sa naissance au début du XIXe siècle comme une hérésie. Cela leur apparaîtra la meilleure façon de faire reculer la pensée marxiste, rationaliste et progressiste dans ce qu'on appelait alors le tiers-monde. C'est ainsi que l'anticommunisme occidental a entraîné une indulgence envers les idéologues réactionnaires islamistes comme le wahhabisme, le djihadisme, en plein essor aujourd'hui, ayant succédé à une haine violente des différents nationalismes arabes anti-impérialistes et à orientation laïque. Alors, je vais en rester là sur cette citation. Simplement, je voudrais rappeler que Georges Cormes avait été membre du tribunal Russell pour la Palestine et rappeler ce qu'est ce tribunal. Le tribunal Russell sur la Palestine est un tribunal d'opinion fondé en 2009 pour mobiliser les opinions publiques pour que les Nations Unies et les États membres prennent des mesures indispensables pour mettre fin à l'impunité de l'État d'Israël et pour aboutir à un règlement juste et durable de ce conflit. Il a pris la forme d'une association de droit belge et Pierre Galland, qui fut ultérieurement le président du Centre d'action laïque de Belgique, en fut un des principaux organisateurs. Le tribunal Russell pour la Palestine et a tenu plusieurs sessions à Barcelone, Londres, Le Cap, New York et Bruxelles. La session du Cap éclaire plus particulièrement l'actualité. On y a entendu Ahmed Kathrada, sud-africain d'origine indienne, compagnon de captivité de Nelson Mandela, tenir le propos suivant, propos rapporté par Gabriel Lefebvre, et qu'elle en soit ici remerciée. L'humiliation permanente, le froid, tout en étant froid, la terre, l'eau, la prison, les gardiens et la nourriture. À côté de moi, Stéphane Hessel murmure « Le froid, oh le froid, oui, j'ai bien connu cela à Buchenwald. Le pire était l'absence d'enfants, poursuit Ahmed Kathrada. Nous avons réussi à humaniser les gardiens et ils nous ont traités mieux au pire moment de cette longue détention, mais nous avions toujours espoir en la victoire. Pour apprécier la liberté, il faut accepter les sacrifices, c'est la force la plus puissante. Même en prison, on ne peut vous empêcher de penser. » Cette session du tribunal d'opinion fut un moment intense, émouvant, réunissant les défenseurs de la liberté des peuples, de la dignité humaine, tant d'années après la fin d'un régime basé sur le racisme, l'oppression de toute la population. En se basant sur des éléments du droit international, lors de cette session de Cape Tone, le jury du tribunal Russell sur la Palestine a défini l'oppression israélienne sur les Palestiniens comme un crime d'apartheid et la persécution qu'il exerce sur cette population comme un crime contre l'humanité. Terrible constat d'une forme d'inhumanité exercée par des descendants de ceux qui en ont le plus souffert. Mais aussi, ce fut l'occasion pour les Palestiniens, des Israéliens, des Sud-Africains d'exprimer ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité, la solidarité envers les plus faibles, la dignité dans le combat pour la paix entre les hommes. Outre les personnes citées, des centaines de citoyens et citoyens ont été associés au tribunal Russell sur la Palestine. Angela Davis, USA, Jean Ziegler, Suisse, Roger Waters, ex-Pink Floyd, et Nurit Peled, militante pacifiste israélienne, Dennis Bank, lutte pour les droits des Indiens aux USA, Merit Corrigan Magir, irlandaise, prix Nobel de la paix 1976, Marwan Barghouti, prisonnier politique d'Israël qui s'est exprimé par la voix de son épouse, Fadwa. Solidarité inconditionnelle avec le peuple palestinien. Voilà. Alors, nous allons arriver à la fin de cette chronique et je voudrais, avant de nous quitter, rappeler qu'une initiative pour en défense du peuple palestinien exigeant donc l'arrêt des bombardements, exigeant le retrait des troupes d'Israël, etc. D'innombrables initiatives sont prises, et parmi elles, le relais du drapeau palestinien, à l'initiative du collectif des Blouses Blanches pour Gaza. Et ce collectif national sur le territoire français s'est constitué à Paris en novembre 2023. Il est formé majoritairement de soignants solidaires du personnel médical et hospitalier à Gaza et de la population palestinienne en général. Ce collectif a décidé d'organiser à travers la France un relais du drapeau palestinien, symbole de résistance à l'occupation, de résilience, de courage et de la libération. Le but est de sensibiliser d'abord l'entourage professionnel sur la situation en Palestine, particulièrement dans la bande de Gaza, en utilisant le levier déontologique, notamment des médecins dont le serment est « Je prends l'engagement solennel de consacrer ma vie au service de l'humanité. Je ne permettrai pas que des considérations de croyances, d'origine ethnique, de genre, de nationalité, de race, d'affiliation politique s'interposent entre mon devoir et mon patient. Je veillerai au respect absolu de la vie humaine. » Et donc les Blouses Blanches pour Gaza se mobilisent pour permettre aux soignants en Palestine de se rendre auprès des personnes qui en ont besoin et d'exercer leur métier en matière de manière aussi sécure que possible, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement dans la bande de Gaza. Donc, ce relais du drapeau palestinien fait le tour de France et il reviendra à Paris le 8 septembre. Et en Dordogne, ce relais fera étape à Périgueux jeudi 5 septembre à 17h30. Donc il y aura une déambulation dont le départ se fera en face du château des Isards, l'esplanade Marwan Barghouti, prendra la voie des stades la passerelle derrière les pompiers, etc. Voilà. Et passerelle Jean Ferrat, ESPAC Franck Grandou, où un pot sera servi, et donc sera la fin de cette déambulation. Et également étape à Bergerac, et là, ce sera le vendredi 6 septembre à 17h30. Et donc, ben, nous appelons tous ceux qui sont attachés à la défense du peuple palestinien à participer donc à ces déambulations. Donc, je le rappelle, je redonne les rendez-vous. Périgueux, jeudi 5 septembre, 17h30, en face du château des Isards, esplanade Marwan Barghouti. Bergerac, vendredi 6 septembre, 17h30. Donc, départ, port de Bergerac. Voilà. Nous en avons maintenant donc terminé avec cette chronique. Je reviens sur cette déclaration donc de nos camarades de l'Hérault suite à l'attaque de la synagogue de la Grand-Motte, avec cette déclaration que vous retrouverez donc sur le site de la Fédération nationale de la libre-pensée, fnlp.fr. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle chronique du groupe Pretzeler sur Radio Libre en Périgord. Merci à Antoine d'avoir assuré la technique pour cette chronique. À lundi prochain.
En forgeant un socle de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fretzeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30.